Chapitre 32. Le happy end que vous attendiez. 1. Ma dernière nuit à Memphis, je la passais au même endroit que la première, dans la petite maison de Dora, non loin du Puits des Mondes. Après avoir mangé du ragoût, on sortit pour contempler dans le ciel cette immense alliance en or qui avait été Bella et Arabella. C'était magnifique, comme le sont parfois les choses brisées. Une fois de plus, je me demandais où se trouvait ce monde, puis décidais que ce n'avait pas d'importance. Qu'il existe me suffisait. De nouveau, je dormis à côté de la cheminée de Dora, la tête posée sur l'oreiller ornée d'un papillon. Je dormis sans recevoir de visites nocturnes et sans faire de cauchemars où apparaissaient Eldon ou Gog Magog. Je me réveillais en milieu de matinée. Dora travaillait d'arrache-pied, si je peux dire, sur la machine à coudre offerte par M. Boditch entre une pile de chaussures abîmées sur sa gauche et une pile de chaussures réparées sur sa droite. Combien de temps encore durerait cette activité, songeais-je. On partagea un ultime repas, bacon, épaisse tranche de pain maison et une omelette faite avec des œufs d'oie. Le petit déjeuner terminé, je bouclais pour la dernière fois la ceinture de M. Boditch. Après quoi, je mis un genou à terre et posai ma paume sur mon front.
Non, non, Charlie, lève-toi!
Sa voix, encore étranglée et pâteuse, s'améliorait de jour en jour. Et même d'heure en heure, je me relevai. Elle me tendit les bras. Je ne me contentais pas de l'étreindre. Je la soulevai de terre et la fis tournoyer, provoquant de grands éclats de rire. Elle s'agenouilla pour nourrir ma chienne en lui offrant deux morceaux de bacon piochés dans la poche de son tablier.
« Aïe !»
dit-elle en la serrant contre elle.
« Je t'aime, aïe !»
Elle m'accompagna jusqu'au milieu de la colline, en direction du rideau de lierre qui masquait l'entrée du tunnel. Les feuilles verdissaient désormais. Mon sac à dos pesait sur mes épaules et la masse que je balançais dans ma main droite paraissait plus lourde. Mais le soleil sur mon visage était agréable. Dora me donna une dernière accolade et une dernière tape à radar. Des larmes mouillaient ses yeux, mais elle souriait. Car elle pouvait sourire maintenant. Je terminai la dernière partie du chemin seul et constatai qu'un autre ami nous attendait. Tache rouge sur le fond de plus en plus vert du lierre. Aussitôt, Radar se coucha à plat ventre. Le snab sauta sur son dos, d'un bond agile, et leva les yeux vers moi en agitant ses antennes. Je m'assis par terre, à côté d'eux, me débarrassai de mon sac et soulevai le rabat.
« Comment ça va, Sir Snab? Votre patte est guérie ?»
Radar aboya, une fois.
« Bien, tant mieux. Mais c'est ici que vous vous arrêtez, hein? Je crains que l'atmosphère de mon monde ne vous réussisse pas. »
J'avais enveloppé dans un t-shirt Hillview High et posé sur le heurtoir ce que Dora avait appelé une « i-lampe ». Sans doute voulait-elle dire « mini-lampe ». Elle avait encore des problèmes avec les consonnes, mais cela s'arrangerait avec le temps. La mini-lampe en question était un morceau de bougie à l'intérieur d'un tube en verre. Je remis mon sac à dos sur mes épaules, soulevai le manchon et allumai la bougie avec une allumette.
« Allez, viens, Radar. Faut y aller. »
Elle se leva. Le snap sauta à terre. Il se figea, nous regarda une dernière fois avec ses yeux noirs solennels et s'éloigna en sautillant dans l'herbe. Je le vis encore un instant car il se déplaçait dans l'air immobile où les coquelicots demeuraient figés. Puis il disparut pour de bon. Je regardai une dernière fois, au pied de la colline, la maison de Dora, qui paraissait encore plus jolie, plus douillette, sous le soleil. Radar se retourna, elle aussi. Dora nous faisait signe, sous les alignements de chaussures suspendues. Je lui fis signe à mon tour. Enfin, je ramassai la masse et écartai le rideau de plantes grimpantes, dévoilant l'obscurité qui s'ouvrait au-delà.
« Tu veux rentrer à la maison, Fifi ?»
Ma chienne me précéda dans le tunnel. 2. On atteignit la frontière entre les deux mondes et je ressentis cette impression de désorientation dont j'avais gardé le souvenir. Je vacillais légèrement et la mini-lampe s'éteignit, bien qu'il n'y ait eu aucun courant d'air. J'ordonnai à Radar de m'attendre et pris une allumette dans l'étui du revolver accroché à la ceinture de M. Bodich. Je la frottai contre la pierre rugueuse et rallumai la bougie. Au-dessus de nous, les chauves-souris géantes s'agitèrent et piaulèrent, puis se calmèrent. On repartit. Arrivé au puits entouré de son escalier en colimaçon étroit, je protégeai la flamme de la bougie avec ma main et levai les yeux, priant pour ne pas apercevoir de lumière tout là-haut. Cela voudrait dire que quelqu'un avait déplacé les planches et les paquets de vieux magazines avec lesquels j'avais masqué l'ouverture. Ce serait mauvais signe. Il me semblait voir une très faible lueur, mais ça ne voulait rien dire. Mon camouflage n'était pas parfait au départ. Radar gravit 4 ou 5 marches, puis se tourna vers moi pour s'assurer que je la suivais.
« Non, non, fillette, moi d'abord. Je ne veux pas que tu arrives là-haut avant moi. »
Elle obéit, bien malgré elle. L'odorat des chiens est au moins 40 fois plus développé que celui des humains. Peut-être qu'elle sentait son ancien monde là-haut qui l'attendait. Dans ce cas, ce trajet devait être une torture pour elle, car je devais sans cesse m'arrêter afin de me reposer. Je n'étais pas encore totalement rétabli. Fried m'avait recommandé d'y aller mollo, et j'essayais de suivre les conseils du docteur. Quand on arriva au sommet de l'escalier, je constatai avec soulagement que le dernier paquet de magazines, celui que j'avais porté sur ma tête comme un ballot de linge sale, n'avait pas bougé. Je m'arrêtai sous les planches au moins 1 minute, plutôt 2 ou 3 même, pas seulement pour me reposer cette fois. J'étais toujours aussi impatient de rentrer à la maison, mais je ressentais à présent une certaine angoisse. Et je crois que je regrettais un peu tout ce que je laissais derrière moi. Un monde où j'avais découvert un palais, une magnifique princesse et des actes de bravoure. Peut-être que dans certains coins, au large du front de mer par exemple, on trouvait encore des sirènes qui chantaient. Dans ce monde d'en bas, j'avais été un prince. Dans celui d'en haut, je serais obligé de remplir des dossiers pour entrer à la fac et de sortir la poubelle. Radar me donna un coup de museau derrière le genou et poussa 2 aboiements aigus. Qui a dit que les chiens ne savaient pas parler ?
Ok, ok.
Je soulevai le paquet de magazines avec ma tête, gravis une marche de plus et l'écartai. Je repoussai les autres paquets des 2 côtés, ralenti par mon bras gauche qui n'était pas très performant. Ça va mieux maintenant, mais ce ne sera plus jamais comme à l'époque où je jouais au football et au baseball. Merci Petra, espèce de salope. Radar émit encore quelques aboiements, histoire de me motiver un peu. Je n'eus aucun mal à me faufiler entre les planches que j'avais disposées au-dessus de l'ouverture du puits, car j'avais beaucoup maigri durant mon séjour à Empis, et particulièrement à Deep Malin. Je dus néanmoins me débarrasser de mon sac à dos d'abord, en me trémoussant, et le faire glisser sur le sol. Quand j'émergeais enfin du puits, mon bras gauche m'élançait. Radar jaillit juste derrière moi, avec une aisance écœurante. J'examinais la cavité laissée par la morsure de Petra, craignant que la cicatrice, encore fraîche, se soit ouverte. Mais apparemment, tout allait bien. En revanche, je fus surpris par le froid qui régnait dans le cabanon. Je voyais mon souffle dans l'air. Le cabanon était comme je l'avais laissé. La lumière que j'avais vue d'en bas entrait par les interstices entre les planches sur les côtés. J'essayai d'ouvrir la porte et découvris qu'elle était cadenassée de l'extérieur. Andy Chen avait donc fait le nécessaire. Je n'avais pas vraiment cru que quelqu'un viendrait inspecter le cabanon en espérant me retrouver, moi ou mon corps, mais j'étais quand même soulagé. Enfin, cela voulait dire que j'allais devoir utiliser la masse. Ce que je fis d'une main. Heureusement, les planches étaient vieilles et sèches. L'une d'elles se fendit dès le premier coup et céda au second, laissant entrer un flot de lumière de l'Illinois et quelques tourbillons de neige. Pendant que Radar poussait des aboiements d'encouragement, je brisais 2 autres planches. Radar bondit hors du cabanon et s'accroupit immédiatement pour faire pipi. Je donnai un dernier coup de masse pour faire tomber un autre grand morceau de bois. Je balançai mon sac à dos dehors et me faufilai par l'ouverture. Je sortis sous le soleil, dans 10 centimètres de neige. 3. Radar traversa le jardin en sautillant, s'arrêtant parfois pour enfouir sa truffe dans la neige qu'elle faisait voltiger. Ce comportement typique d'un chiot me fit rire. J'étais bouillonnant après avoir gravi l'escalier en colimaçon et manié la masse, et le temps que j'atteigne la terrasse de derrière, je grelottais. Il devait faire dans les 5 degrés en dessous de zéro. Si on ajoutait le vent, on pouvait diviser par 2. Je récupérais la clé sous le paillasson, que M. Boditch appelait le paillasson des importuns, et ouvrit la porte. La maison sentait le moisi et elle était glaciale. Mais quelqu'un, mon père sans doute, avait monté légèrement le chauffage pour éviter que les tuyaux gèlent. Je me souvenais d'avoir vu une vieille veste style barbeur dans la penderie de l'entrée. Elle y était toujours, avec une paire de caoutchoucs d'où dépassaient des chaussettes en laine rouge. Les caoutchoucs étaient un peu trop petits, mais je ne les porterai pas longtemps, jusqu'en bas de la colline seulement. La ceinture et le revolver se retrouvèrent sur l'étagère de la penderie. Je les rangerai dans le coffre plus tard, à supposer bien évidemment que le coffre et son butin secret soient encore là. On ressortit par derrière, on fit le tour de la maison et franchit le portillon que j'avais dû escalader la toute première fois, alerté par les aboiements de radar et les faibles appels au secours de M. Boditch. J'avais l'impression qu'un siècle s'était écoulé. Au moment où je tournais dans Sycamore Street Hill, quelque chose attira mon attention. Ce quelque chose, c'était moi. Je venais de voir mon visage sur le poteau téléphonique planté au coin de Sycamore et de Pine. La photo de ma carte de lycéen, précisément. Et la première chose qui me frappa, c'était combien je paraissais jeune. Voilà un gamin qui ne connaissait rien à rien, pensais-je. Il croyait peut-être savoir des choses, mais non, non, non. En grosses lettres rouges au-dessus de la photo, on pouvait lire « Avez-vous vu ce garçon ?» Et dessous, en lettres rouges éclatantes, « Charles McGee Reed, 17 ans ». Dessous encore, « Charlie Reed a disparu en octobre 2013. Taille, 1m95. Poids, 105 kilos. Il a été vu pour la dernière fois, etc. » Je remarquais deux choses. L'affiche avait souffert des intempéries et elle se trompait sacrément au sujet de mon poids actuel. Je scrutais les alentours, m'attendant presque à voir Madame Richland en train de m'observer avec sa main au-dessus des yeux, mais il n'y avait que Radar et moi sur le trottoir salé. Arrivé à mi-chemin de chez moi, je m'arrêtais, pris par l'envie soudaine, insensée mais forte, de faire demi-tour, de franchir le portillon du 1 Sycamore, de contourner la maison, d'entrer dans le cabanon, de descendre l'escalier en colimaçon et de me retrouver à M-Piss, où j'apprendrai un métier et ferai ma vie. Je deviendrai l'apprenti de Fried, par exemple. Il ferait de moi un chirurgien. Mais je repensais à cette affiche et à toutes les autres semblables apposées partout en ville, dans tout le comté, par mon père et mon oncle Bob et le parrain de mon père, Lindy, et par tous ses autres amis des AA, peut-être, s'il n'avait pas recommencé à picoler. Seigneur, je vous en supplie, faites que non. Je me remis à marcher, accompagné par le tintement des boucles des caoutchoucs d'un mort et par la chienne de celui-ci, rajeuni. Un petit garçon, vêtu d'une doudoune rouge et d'un pantalon de ski, remontait la colline dans ma direction d'un pas lourd. Il traînait derrière lui une luge à l'aide d'une corde à linge. Sans doute se rendait-il à la piste de Cavano Park. « Attends une minute, petit !» Il me regarda d'un air méfiant, mais s'arrêta. « On est quel jour ?» Ces paroles étaient sorties assez facilement, mais on aurait dit qu'elles accrochaient. Ça n'a aucun sens, je m'en doute, mais c'était ce que je ressentais et je savais pourquoi. J'avais recommencé à parler anglais. Le gamin me jeta un regard qui demandait si j'étais né débile ou si je l'étais devenu.
« Samedi ?»
Mon père serait à la maison, donc, à moins qu'il assiste à une réunion des AA.
De quel mois ?
Cette fois, son regard disait
« Sérieux, mec ?
Février ?
2014 ?
Ouais, faut que j'y aille !»
Il continua vers le haut de la colline en nous jetant, à ma chienne et à moi, un regard méfiant par-dessus son épaule. Sans doute pour s'assurer qu'on ne le suivait pas, animé de mauvaises intentions. Février. J'étais parti 4 mois. Ça faisait bizarre de penser ça, mais c'était moins bizarre que toutes les choses que j'avais vues et faites. 4. Je demeurais planté devant la maison pendant une minute. Je rassemblais mon courage pour entrer, en espérant que je n'allais pas découvrir mon père évanoui dans le canapé, devant La Poursuite Infernale ou Kiss of Death sur TCM. L'allée avait été dégagée au chasse-neige et le perron à la pelle. C'était bon signe. Radar en avait marre. Elle gravit les marches en courant et s'assit en attendant qu'on la laisse entrer. Autrefois, j'avais la clé de cette porte, mais je l'avais perdue quelque part en chemin. Comme le tricycle de Claudia, songeais-je, ou mon pucelage. Il s'avéra que ça n'avait pas d'importance. La porte n'était pas verrouillée. J'entrai, entendis le son de la télé, ce n'était plus TCM, mais une nouvelle chaîne, et Radar s'élança dans le couloir en aboyant pour dire bonjour. Quand je la rejoignis dans le salon, elle était dressée sur ses pattes arrière. Celle de devant reposait sur le journal que mon père était en train de lire. Il la regarda, puis il me regarda. Tout d'abord, il sembla ne pas comprendre qui se tenait dans l'encadrement de la porte. Et puis, le choc provoqua un relâchement des muscles de son visage. Je n'oublierai jamais qu'au moment où il me reconnut, il parut à la fois plus âgé, l'homme qu'il serait à 60 ou 70 ans, et plus jeune, le garçon qu'il avait été à mon âge, comme si un cadran solaire interne tournait simultanément dans les deux sens. Charlie, il voulut se lever, mais ses jambes se dérobèrent et il retomba dans le fauteuil. Radar, assise à côté de lui, frappait le sol avec sa queue. Charlie, c'est vraiment toi ? Oui, papa, c'est moi. Cette fois, il parvint à se mettre debout. Il pleurait. Je fondis en larmes, moi aussi. Il se précipita vers moi et se prit les pieds dans une petite table d'appoint. Il serait tombé si je ne l'avais pas retenu. « Charlie, Charlie, oh Dieu soit loué. Je te croyais mort. On croyait tous, mais... » Il ne pouvait pas en dire plus. J'avais un tas de choses à lui raconter. Mais présentement... j'étais incapable de parler, moi aussi. On s'étreignit au-dessus de Radar qui agitait la queue en aboyant. Je devine ce que vous voulez. Eh bien, le voici, votre happy end.